Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 8 décembre 2015. Au sommaire ce soir...
Le gouvernement ivoirien convoque l'ambassadeur français à Abidjan pour protester contre le mandat d'amener de la justice française visant Guillaume Soro.
République centrafricaine, 30 candidatures sont validées pour la présidentielle.
Début à Bruxelles de pourparlers entre l'Union européenne et le gouvernement burundais sur la crise que traverse le Burundi en toile de fond, la menace d'une suspension de l'aide européenne à Bujumbura.
États-Unis, réaction à la proposition du candidat républicain Donald Trump d'interdire l'entrée des musulmans dans le pays.
L'opposition syrienne cherche une plateforme commune en prévision des négociations avec le régime de Bachar al-Assad.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
L'affaire Guillaume Soro en France a pris une tournure diplomatique. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministre des Affaires étrangères, a convoqué l'ambassadeur français à Abidjan pour protester contre le mandat d'amener de la justice française visant Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Éric Manirakiza nous en dit plus.
Ce mandat d'amener a été émis par une juge d'instruction parisienne. Profitant de la présence de Guillaume Soro à Paris pour la COP21, Sabine Kerris a voulu auditionner le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Cette situation a agacé Abidjan et le patron de la diplomatie ivoirienne, Charles Kofi Dibi, a exigé à la France de respecter l'immunité absolue dont jouit M. Soro en mission officielle à Paris sur mandat du chef de l'État, Alassane Ouattara. La protestation écrite remise à l'ambassadeur de France à Abidjan, Georges Serre, pour transmission à Laurent Fabius, son ministre de tutelle, rappelle que ce mandat d'amener viole complètement les accords de coopération, la Convention de Vienne et les traités pour les immunités.
Par ailleurs, dans un communiqué, Human Rights Watch estime que le second mandat du président ivoirien Alassane Ouattara doit privilégier le règlement des profonds défis relatifs aux droits humains pour éviter que la lutte pour sa succession ne replonge la Côte d'Ivoire dans des violences. M. Ouattara, réélu dès le premier tour en octobre, cherche à relancer le processus de réconciliation dans un pays qui se remet encore de la crise post-électorale de 2010-2011, rappelle l'agence France Presse.
En Centrafrique, 30 candidats s'affronteront au premier tour de la présidentielle prévue le 27 décembre. La Cour constitutionnelle de transition a rejeté 14 candidatures, dont celle de l'ex-président François Bozizé, Idriss Fall.
Plusieurs hommes politiques connus, dont Martin Ziguélé, Anissé Georges Dolleguélé ou Karim Mekassoua, ont vu leur dossier validé. Sur les 30 candidats retenus, il y a une seule femme, Regina Kondi, professeure d'anglais, se présentant comme indépendante. François Bozizé, qui vit en exil, a vu son dossier rejeté. Selon la Cour, il n'a pas fourni la preuve de son inscription sur les listes électorales. Patrice Edouard Ngaïsona, coordinateur des milices anti-Balaka, a lui aussi été recalé parce qu'il traîne des casseroles devant la justice. L'actuel président de la transition, Catherine Samba-Panza, ne peut juridiquement pas se présenter. L'ancien chef d'État, Michel Djotodia, lui, n'avait pas déposé de dossier. La Cour constitutionnelle examine également les dossiers de quelques 1800 candidats aux législatives dans 141 circonscriptions. Près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dès dimanche dans un référendum constitutionnel. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est prévu le 27 décembre et un éventuel second tour le 16 janvier 2016.
Par ailleurs, des barricades ont été érigées et des tirs entendus cet après-midi à Bangui après l'annonce des candidatures retenues pour participer à la présidentielle du 27 décembre et le rejet de celle de l'ex-président François Bozizé, avertit l'ambassade de France.
Début ce mardi à Bruxelles, des pourparlers entre l'Union européenne et le gouvernement burundais sur la crise que traverse le Burundi. La menace d'une suspension de l'aide européenne plane sur Bujumbura depuis que le président burundais Pierre Nkurunziza a remporté son troisième mandat controversé. Précision, Timothée Donangmaï.
Principale pourvoyeuse de l'aide au Burundi, l'Union européenne entend discuter avec le gouvernement burundais des questions relatives au respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Une porte-parole européenne avait précédemment indiqué que l'Union pourrait invoquer l'accord de Cotonou régissant les relations entre l'Union et les pays ACP. Celui-ci fixe les règles de coopération mutuelle, notamment dans la promotion des droits de l'homme. Sa violation pourrait mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à une suspension de l'aide européenne. Bujumbura, qui estime être mal compris, a dépêché à Bruxelles une importante délégation conduite par le chef de la diplomatie, Alain-Aimé Niamitoué, dans l'espoir de clarifier sa position. Le Burundi est dans la tourmente depuis que le président Pierre Nkurunziza a remporté son troisième mandat à l'issue d'une élection qualifiée d'illégale par l'opposition. De violents incidents continuent de faire des morts dans le pays.
Des combattants du groupe Boko Haram ont entièrement incendié un village dans le nord-est du Nigeria. Selon les témoignages d'un habitant et d'un chef communautaire, rapporte l'AFP, les islamistes ont attaqué le village de Takoulachi dimanche, 2 jours après y avoir volé 200 têtes de bétail.
Un Américain combattant en Somalie dans les rangs des islamistes Shebab s'est rendu aux autorités, a annoncé aujourd'hui un responsable local, un mois après la reddition d'un autre djihadiste américain. Malik Abdi Wahab s'est livré lundi après que les Shebab eurent essayé de le tuer en raison de divergences idéologiques, rapporte l'AFP. Début novembre, un autre Américain combattant pour les islamistes, Mohamed Abdullahi Hassan, s'était rendu aux autorités somaliennes.
Au Soudan du Sud, des groupes armés se sont violemment affrontés ce mardi à Yambio, la capitale de l'État d'Équateur occidental, dans le sud-ouest du pays, indique l'AFP. Ces combats font craindre que la guerre civile qui ravage le pays depuis 2 ans ne s'étende à cette zone qui avait été plus ou moins épargnée jusqu'ici.
4 soldats français ont été entendus aujourd'hui à Paris dans l'affaire des soupçons de viol d'enfants en Centrafrique en 2013 et 2014. Il s'agit des premières auditions de militaires français dans cette enquête qui porte sur les accusations de viol commis dans un camp de personnes déplacées entre décembre 2013 et juin 2014, visant 14 soldats de l'opération Sangaris à Bangui.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une centaine de représentants de l'opposition politique et armée syrienne, y compris des islamistes radicaux, entament demain à Riyad des discussions visant à unifier leur position en vue d'éventuelles négociations avec le régime de Bachar al-Assad. Ce rassemblement, rappelle l'AFP, est sans précédent depuis le début en 2011 du conflit en Syrie qui a fait plus de 250 000 morts et poussé à l'exode des millions de personnes. Les groupes kurdes n'ont pas été invités, ont organisé en Syrie avec d'autres groupes de l'opposition une réunion parallèle sur l'avenir politique du pays.
Israël a inculpé 5 Arabes israéliens pour des liens présumés avec l'organisation djihadiste État islamique. C'est ce que rapporte l'AFP citant le Shin Bet, la sécurité intérieure israélienne. Ces hommes âgés de 18 à 27 ans et arrêtés en octobre et novembre se sont procurés des armes et se sont entraînés à leur maniement durant l'année écoulée, dit le Shin Bet dans un communiqué. Environ 45 Arabes israéliens ont rejoint les djihadistes en Syrie. Selon l'organisation, 4 ont été tués dans les combats et 10 arrêtés à leur retour en Israël.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a appelé ce mardi la Jordanie à accueillir 12 000 réfugiés syriens bloqués à sa frontière dans une situation humanitaire difficile. Selon le HCR, ces réfugiés sont de plus en plus sujets à des maladies et des femmes ont dû accoucher dans des conditions insalubres et non hygiéniques. Le HCR estime que quelques 600 000 réfugiés syriens vivent en Jordanie, tandis que le gouvernement jordanien affirme que leur nombre est de plus de 1 million, soit 20% de la population du royaume.
Donald Trump, en tête des sondages des primaires républicaines pour la Maison-Blanche en 2016, a appelé hier à interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Il a été applaudi par ses partisans, mais fait face à un tir de barrage de la gauche à sa droite. Arzuma Compaoré.
Donald Trump a été ovationné pendant un meeting en Caroline du Sud. Il venait juste d'annoncer qu'il souhaitait fermer les frontières des États-Unis aux musulmans. Ces propos ont soulevé un tollé d'abord chez les musulmans américains. Des fidèles se disent choqués en sortant d'une mosquée de Jersey City, près de New York. Au Caire, Dar al-Ifta, la plus haute autorité religieuse d'Égypte, dénonce des remarques extrémistes et racistes. Dans le camp républicain, les rivaux de Trump, Marco Rubio et Chris Christie, condamnent cette dernière sortie. Jeb Bush l'a même traité de déséquilibré. Donald Trump, vous ne comprenez rien, a réagi la démocrate Hillary Clinton sur Twitter. En France, le premier ministre Manuel Valls fustige un discours qui entretient la haine et les amalgames en précisant que l'ennemi, c'est l'islamisme radical et non l'islam. Dimanche, Barack Obama avait déjà appelé les Américains à éviter l'amalgame entre le groupe État islamique et l'islam. Apparemment, Donald Trump n'avait pas entendu cet appel.
Les États-Unis ne reconnaîtront jamais la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie, a déclaré le vice-président Joe Biden lors d'un discours au Parlement ukrainien à Kiev. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco ce soir avec John Lyndon.
Canal Plus s'allie au Netflix africain sur la vidéo sur mobile. Canal Plus, qui a déjà lancé 25 chaînes de télé en Afrique cette année, a annoncé ce mardi la naissance d'un service de vidéo sur mobile pour les Africains francophones en partenariat avec Airoco, spécialisé dans les contenus africains en ligne, surnommé le Netflix africain. Canal Plus et Airoco misent sur un marché extrêmement prometteur de plus de 250 millions de francophones répartis dans 23 pays et dans lesquels l'Internet mobile connaît une croissance exponentielle, environ 165 millions de smartphones en circulation d'ici à 2020. Mali, l'Horizon de Bamako réouvrira le 15 décembre, selon le magazine Jeune Afrique, citant deux sources, le propriétaire et le manager de l'établissement. Le Horizon Blue Hotel avait été la cible d'une attaque terroriste le 20 novembre dernier, laquelle avait fait 22 morts. Pour le moment, l'enquête se poursuit, notamment sur l'identité des deux assaillants tués par les forces de l'ordre lors de l'attaque, elle-même revendiquée par deux groupes terroristes. Au Mali toujours, on parle de lutte contre les gaz à effet de serre à travers une invention. Gaoussou Traoré, architecte urbaniste à Bamako, explique au micro de Modibo Dembélé son invention dénommée Brick Ash.
La Brick Ash est une brique, comme son nom l'indique, c'est une forme de hache par rapport à une brique ordinaire. Le volume de la Brick Ash, ça fait 5 litres, tandis qu'une brique ordinaire, ça fait 7 litres. Donc la Brick Ash coûte 30% moins cher qu'une brique ordinaire. On appelle l'économie à la confection.
Merci John pour la Minute Éco.
Place maintenant à l'actualité sportive. Salut Nicolas Pinault. L'heure de vérité pour Michel Platini.
Le Français a plaidé devant le tribunal arbitral du sport pour la levée de sa suspension dans l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros. Il attend désormais la décision du TAS. Ce sera vendredi au plus tard. Si la suspension provisoire du patron de l'UEFA était levée, Platini pourrait alors présider le tirage au sort de l'Euro 2016. Ce sera samedi soir à Paris. Cela serait une victoire symbolique, même si une menace bien plus lourde pèse sur lui, celle d'une radiation à vie du monde du football dans le cadre du jugement sur le fond de la justice interne de la FIFA attendu avant Noël.
La Ligue des Champions à suivre ce soir en Europe.
Oui, la sixième et dernière journée de la première phase qui débute. À suivre Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, Real de Madrid contre Malmö, Wolfsburg, Manchester United, le PSV contre le CSKA Moscou, Galatasaray face à la Lokomotiv Astana, le FC Séville accueille la Juventus Turin, enfin Manchester City contre Mönchengladbach.
Alors Nicolas, pas de match ce mardi dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans au Sénégal.
Oui, les demi-finales, c'est demain entre le pays organisateur, le Sénégal contre le Nigeria et l'Algérie face à l'Afrique du Sud.
NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Raptors de Toronto ont mis fin à une série de deux revers en l'emportant 102-93 face aux Lakers de Los Angeles lors du dernier match de Kobe Bryant à Toronto. Les autres résultats, Détroit qui est battu par Charlotte 84-104, San Antonio qui s'impose facilement contre Philadelphie 119-68, Washington qui domine Miami 114-103, belle victoire de Dallas contre New York 104-97, Phoenix qui domine Chicago sur le fil 103-101, Portland battu par Milwaukee 88-90, les Clippers de Los Angeles dominent Minnesota 110-106, enfin Boston qui domine la Nouvelle-Orléans 111-90. Et cette dernière nouvelle, évidemment, chérubin, une nouvelle sonnante et trébuchante. La marque Nike a signé un contrat à vie avec le basketteur double champion NBA LeBron James. Aucun chiffre n'a été cité, mais selon les observateurs, ce contrat dépasserait facilement les 300 millions de dollars. C'était un contrat de 10 ans signé par Nike avec Kevin Durant. Ça fait rêver.
Merci pour les sports, Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Barge et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Place au dossier du jour, Nathalie.
Oui, la Chine envisage de construire sa première base militaire à l'étranger et ce sera à Djibouti. Une initiative qui, selon les analystes, s'inscrit dans une stratégie économique globale plus large et qui reflète l'approfondissement des liens avec l'Afrique. Plus de détails avec John Lyndon.
La Chine affirme que sa base navale de Djibouti sera en fait un centre de logistique et d'approvisionnement. Le petit pays d'Afrique orientale est proche des zones à haut risque comme la Somalie et du Sahel et se trouve sur le golfe d'Aden, le long d'une voie du commerce mondial qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. Les États-Unis, la France et le Japon y ont également des bases. Wang Dong, professeur des relations internationales à l'Université de Pékin, dit que l'installation jouera un rôle dans la protection des routes maritimes de Pékin. Ce n'est vraiment pas une base militaire au sens strict du terme, c'est plus pour l'accès aux équipements. Parce que la Chine mène un grand nombre de missions contre la piraterie dans le golfe d'Aden depuis de nombreuses années et il y a un besoin pour le réapprovisionnement en termes de logistique. La Chine contribue en effet aux patrouilles anti-piraterie dans le golfe d'Aden depuis 2008. Et a aussi déployé des casques bleus au Soudan du Sud cette année. Mais la politique étrangère du pays a longtemps été basée sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Alexander Nels est senior fellow à l'Institut pour le Bureau d'études stratégiques en Asie à Singapour. Il dit que les Chinois sont en train d'élargir leur empreinte en Afrique par d'autres moyens. Je pense donc que le grand changement a été de répliquer le projet Une ceinture, une route et d'orienter la capacité excédentaire de la Chine vers l'Afrique pour y construire des infrastructures, fournir des prêts bonifiés, des prêts sans intérêt et stimuler les intérêts commerciaux en Afrique, alors que l'approche de la Chine au cours de la dernière décennie était plus extractive. Tous les trois ans, Pékin a doublé son soutien financier pour l'Afrique, de 5 milliards en 2006 à 10 milliards en 2009, puis à 20 milliards en 2012. Maintenant, la Chine a triplé ce nombre. Le président Xi Jinping était en Afrique du Sud la semaine dernière, où il a promis 60 milliards de dollars sous forme de prêts et d'aide à l'Afrique.
Scandale dans le monde du sport, c'est le thème de Washington Forum cette semaine. Corruption à la FIFA, soupçons de dopage organisé des athlètes en Russie ou au Kenya, l'éthique sportive est mise à mal par l'argent et la triche. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos commentaires qui seront lus pendant l'émission ce jeudi à 19h TU, Washington Forum sur VOA Afrique.
Parlons de la COP21. De grandes ONG environnementales africaines et occidentales comme Greenpeace France, Global Witness, Rainforest Foundation UK, Rainforest appellent la France à se désengager du secteur d'exploitation forestière industrielle dans le bassin du Congo pour protéger le climat de la planète. Nous avons joué à Paris Marco Naesangui, le secrétaire exécutif de Rainforest, qui participe à la conférence mondiale sur le climat.
L'Agence française de développement est au cœur de certains projets forestiers, par exemple les plans d'aménagement forestier. Mais nous avons tout simplement constaté que depuis que ces plans d'aménagement forestier sont mis en place, la problématique de l'exploitation de nos forêts n'a pas été résolue, encore que les opérateurs ont la possibilité de ficher. Et non seulement il y a ce phénomène, mais aussi le phénomène de l'exploitation illégale. S'accentue.
Pour citer un exemple de votre communiqué, vous dites par exemple qu'il y a eu un audit de l'Union européenne en 2014 disant que toutes les exploitations forestières au Cameroun, dans toutes ces exploitations, il n'y en avait pas une seule qui était légale.
Exactement. Sauf que derrière tout ça, ce plan d'aménagement forestier, c'est une raison valable pour justifier des financements qui sont mis en place, mais sauf que les résultats ne suivent pas. Par exemple, un pays comme le Gabon, le rapport que nous avons présenté à la COP21 prouve que c'est l'exploitation forestière qui est à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Pour le cas du Gabon, par exemple, c'est 4% qui sont provoqués par la déforestation. Et par conséquent, si on voudrait arrêter ces émissions, autant mettre en place une autre stratégie qui ne vise pas l'exploitation de notre forêt. À côté de cela, nous avons des projets financés par la France qui encouragent, par exemple, les permis agricoles qui favorisent le palmier à huile et l'EVA. Donc on ne peut pas à la fois dire qu'on va lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en même temps qu'on favorise des projets qui visent l'exploitation de nos forêts.
Pour citer encore un autre exemple que vous citez, hein, la RDC par exemple, 90% des taxes forestières partent dans la nature, c'est ça ?
Alors, la plupart des projets financés par l'Agence française de développement en Afrique, quand vous regardez sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de résultats, mais beaucoup d'argent. Il y a certains projets qui encouragent la corruption. Les dégâts pour la forêt sont énormes. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit encourager cela ? Nous, on pense que non.
Votre constat, c'est que dans le bassin du Congo, toutes ces populations qui vivent là, finalement, depuis tous ces projets présumés pour la protection de l'environnement, toutes ces populations sont toujours aussi pauvres.
Exactement. Il n'y a pas un seul cas en Afrique où l'exploitation forestière a amélioré le niveau de vie des populations. Il n'y a pas un seul cas.
Cependant, la France n'est pas la seule à exploiter les forêts dans ces zones, notamment les Asiatiques. Est-ce que vous pensez que les pays asiatiques le font d'une meilleure manière que la France ?
Non, les pays asiatiques sont même pires. Ce que nous voulons tout simplement dire à la France, qui est à la pointe de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'améliorer sa gouvernance forestière en Afrique. Le gros des multinationales qui exploitent les forêts en Afrique du bassin du Congo, ce sont les multinationales françaises. C'est pour ça qu'on interpelle la France.
L'environnementaliste gabonais Marc Onaïsangui était joint à Paris.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Dans son récent discours sur la lutte contre le groupe État islamique, le président Barack Obama a lancé un appel à la communauté musulmane et à ses leaders pour qu'elle fasse plus pour contrer l'idéologie meurtrière des djihadistes. Idrissa Seydoudia a joint le professeur Boubé Namewa, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.
Nous avons constaté qu'il y a une partie de la communauté musulmane qui adopte une attitude un peu expectative par rapport à cela. Autrement dit, et nous n'avons pas de réaction ferme, alors qu'eux-mêmes ne partagent pas ce que l'État islamique est en train de faire à travers le monde. Il y a dans la communauté musulmane des gens qui pensent totalement que cela n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et que, comme on dit, on est en train d'utiliser l'islam pour pouvoir semer la pagaille dans le monde, tuer des gens, etc. Or, l'islam n'a absolument rien à voir avec tout cela. Et tant que la communauté musulmane, en particulier les autres confréries, s'y mettent à travers des conférences, à travers des interviews, à travers des appels incessants, à travers des sensibilisations et des conscientisations, surtout en direction de la jeunesse des pays musulmans, pour que les jeunes ne s'incorporent pas dans cette aventure qui véritablement ne vit ça au sein des lui-même.
Et dans les églises, je dis dans les églises, dans les mosquées et aussi dans les écoles coraniques.
Oui, il me semble que d'abord, en ce qui concerne les différentes religions, que ce soit l'islam ou le christianisme, dans les deux camps, vous avez des extrémistes. Je pense qu'au niveau des chrétiens, il y en a qui aiment voir cette image de l'islam qui serait une religion totalement violente, et qui en réalité n'a rien à voir avec, mettons, le comportement des religieux, que ce soit dans l'intérêt du christianisme ou du judaïsme. Donc là, de ce côté, vous avez des gens qui ont la ferme conviction que l'islam est une religion, mettons, violente, qui ne font rien dans le sens de faire comprendre, par exemple, à leurs adeptes que l'islam est une religion comme n'importe quelle autre religion et qui peut connaître des soubresauts ou en tout cas, qui peut connaître un usage autre que ce pour quoi elle est. Au niveau des mosquées, comme vous le dites, et au niveau des écoles coraniques, il est évident aujourd'hui, surtout sur le continent africain, qu'il y a une espèce de transfiguration de l'islam. Aujourd'hui, nous avons affaire beaucoup plus à des écoles où aujourd'hui les textes de référence ne sont plus les textes qui véhiculent une certaine spiritualité ou une certaine morale ou en tout cas une certaine éthique, je vais dire l'art de vivre ensemble. Aujourd'hui, tous les textes qui constituent le fondement de l'enseignement des nouvelles écoles coraniques, évidemment, sont des textes qui font la culture de l'extrémisme, la culture de la violence. Ce sont des textes qui orientent l'islam vers une politisation. Donc il me semble que d'abord, au-delà, non seulement de la réponse qu'il faudrait apporter et de la surveillance qu'il faudrait apporter aussi bien à l'Église qu'au niveau des mosquées et des écoles coraniques, il va falloir quelque part que les gens essaient d'avoir un œil bienveillant sur, mettons, le programme d'enseignement dans ces différentes écoles et qu'il y ait un dialogue qui sera instauré. J'ai dit bien dialogue au sens fort, non, parce que le dialogue suppose qu'est-ce que la différence de l'autre peut m'apporter et qu'est-ce que ma différence peut apporter à l'autre. Donc, qu'il y ait un dialogue.
C'était Boubé Namewa, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En France, le Front national a raflé la mise dimanche avec un score spectaculaire au premier tour des élections régionales. Ce parti d'extrême droite risque de dominer le second tour. Les attentats de Paris, la crise migratoire, la crise économique qui s'aggrave dans le pays, tout cela favorise le parti de Marine Le Pen. Éric Manirakiza a joint à Paris le politologue Thomas Guenol.
Le vote pour le Front national a plusieurs moteurs. Il y a les gens qui votent pour le Front national parce qu'ils sont fondamentalement radicalement raciste et réactionnaire, et donc ça c'est le socle historique fondamental, le noyau dur de l'électorat FM. Vous avez l'électorat de droite dure qui hésite entre la droite et le Front National sur tous les sujets qui ne sont pas économiques, et là manifestement ils sont de plus en plus nombreux à passer dans le vote Front National parce que la droite perd des électeurs en réalité avec ces élections régionales. Vous avez un électorat qui lui est un électorat qui est anti-système et il vote Front National juste pour faire s'effondrer le système politique traditionnel par rejet des élites. Et puis vous avez donc une dernière couche qui est finalement un électorat pauvre, un électorat populaire qui est sensible au protectionnisme économique proposé par le Front National. Et donc ce sont tous ces moteurs-là qui s'additionnent, qui se conjuguent.
Et comment vous analysez la stratégie pour le second tour ?
Il est tout à fait logique pour la gauche de vouloir faire absolument barrage à l'extrême droite parce que une de ses valeurs les plus puissantes, c'est l'antiracisme. Et donc la gauche fera toujours tout ce qu'elle peut, même le suicide électoral, si ça permet de barrer la route au FN. Ça fait partie des fondamentaux absolus de la gauche française. Dans le cas de la droite, la situation est plus compliquée parce qu'il y a à peu près la moitié de l'électorat de droite qui est d'accord avec les positions du Front National sur tout ce qui n'est pas l'économie. Et donc, pour la droite, s'allier avec la gauche contre l'extrême droite est une position qui la menace d'être elle-même coupée en deux. Raison pour laquelle la droite version Nicolas Sarkozy est sur cette position bancale de dire « nous ne allions pas avec le Front National ». Mais nous ne nous allions pas avec la gauche contre le Front National non plus. Ce ni-ni, en fait, c'est un compromis de Nicolas Sarkozy entre les deux ailes, finalement, de la droite, celle qui est FN compatible et celle qui est FN incompatible, parce que toute autre position menacerait de couper en deux sa base électorale. Et donc, comme Nicolas Sarkozy n'est pas suicidaire, il reste sur la position du ni-ni.
Nicolas Sarkozy a été battu, veut revenir. Est-ce que sa stratégie n'est pas une stratégie à double tranchant?
Les résultats de la droite au premier tour des élections régionales, c'est que c'est aussi mauvais qu'au régional de 2010, alors qu'à l'époque, la droite était au pouvoir au niveau national et s'est pris le vote sanction de la crise économique historique de 2008. Ça veut dire que la droite, alors qu'elle est dans l'opposition, ne profite pas du rejet de la gauche qui est au pouvoir. Parce qu'à la tête de la droite, il y a un homme qu'on a déjà essayé. Et donc, fondamentalement, je crois que Nicolas Sarkozy, après avoir été la locomotive de la droite, il est en train de devenir son boulet.
Le politologue Thomas Guenol, joint à Paris.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui.